This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode de la session Marion et Guillaume de Positron. Je suis Patrick Béja. Positron, c'est l'émission où on vous recommande trois trucs cool en 20 minutes. BD, musique, jeux vidéo, séries, etc., etc. Et aujourd'hui, pour ce dernier épisode, j'espère qu'on va avoir des trucs absolument incroyables. Moi, j'ai un truc sympa à vous recommander. J'espère que Marion et Guillaume aussi. Comment ça va, tiens, d'ailleurs, puisque je parle de vous, Marion, tiens, ça va ?
Bah, ça va, très bien. Ça passe vite, déjà au quatrième épisode.
Oui, déjà 2 mois qu'on est ensemble, c'est fou. Et alors, attention, Guillaume, j'espère que cette fois, on va pas être déçu. Comment ça va aujourd'hui ?
Tu fais un gros happening à chaque fois quand même.
Mais ouais, non, mais
ça va très bien.
Bon, ok, ça passe.
C'est la super pêche, voilà.
Bon, merci.
De moins en moins, en fait, j'étais plus.
T'étais plus en forme au premier épisode, oui, j'ai remarqué. Bah, il faut dire que, comme les auditeurs le savent, on enregistre quand même tous ces épisodes à la suite, et ça fait un bon 2 grosses heures super concentrées à parler presque sans s'arrêter. C'est un petit peu plus difficile que certains ne pourraient le penser. Donc, merci, surtout quand vous êtes réveillés très tôt le matin pour le faire, merci à tous les deux d'être là avec nous, j'apprécie vraiment. Vous savez quoi, on va commencer en se donnant la pêche avec un morceau d'un album que j'aime beaucoup depuis très longtemps, puisque c'est un très vieil album qui s'appelle Libération, du groupe The Divine Comedy, qui est un groupe anglais, et je vais juste jouer un petit morceau pour commencer. Allez, hop, voilà, toujours avec le faux micro qui marche pas bien parce que je suis toujours pas chez moi. On entend quand même ?
Oui, on entend.
Oui, très bien.
C'est joyeux, non ? Alors voilà, ça c'est donc The Divine Comedy, un album très vieux, c'est un groupe qui existe, je sais pas s'ils existent encore, mais je crois bien, c'est en tout cas ils ont existé pendant très longtemps. C'est un groupe d'un style un petit peu particulier que certains qualifient de chamber pop. Pourquoi chamber pop ? Parce que c'est un petit peu comme de la musique de chambre. Il y a des instruments qu'on n'entend pas souvent dans la musique moderne. Il y a des clavecins, des violons, du piano, bien sûr. Il y a des instruments un peu plus modernes également, mais il y a souvent ce type d'instrumentalisation qui est... je sais même pas vraiment comment dire, bah chamber pop, la pop de chambre, c'est assez, ça décrit assez bien. Donc cet album spécifiquement date de 1993, donc ça date pas d'hier. C'est de la musique qui, par son style particulier à mon sens, n'a pas vraiment vieilli. Donc ça peut se réécouter aujourd'hui. Et c'est très anglais. C'est vraiment cette créativité, cette inventivité anglaise. On reste quand même dans les années 90, mais il y avait une prévalence, mais la mode de la musique électronique dans les années 90. Il y a des choses bien qui ont été faites en musique électronique, mais il y a eu aussi une sorte de, même pas de réaction, mais de différenciation à cette musique électronique, et je pense que Divine Comedy en faisait partie. Je vais vous faire écouter un autre morceau pour vous faire... Ah non, ça c'est un message. Donc voilà. Hop. Ça, on essaye de... Bien sûr, une référence à Dante, hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce style-là. Tout l'album est un petit peu dans ce style-là, qui est très très poétique. Ça reste de la, comment dire, c'est pas non plus de la musique indie comme on peut l'envisager aujourd'hui depuis, je dirais, les années 2000-2010, avec une vraie recherche, presque une recherche rythmique. Là, on est dans des trucs qui sont des recherches instrumentales plus que dans la fondation de la musique. C'est original quand même, mais c'est pas aussi indépendant que ce qu'on peut avoir d'indépendant aujourd'hui. On parlait de musique indie canadienne la dernière fois. Il y a des choses plus différentes, plus recherchées dans cette musique-là. Ici, on reste dans de la pop, mais de la pop un petit peu différente, avec cette idée de instrumentation qui fait de la, j'ai presque envie de dire de la nostalgie. Enfin voilà, vous avez bien entendu de quoi il s'agissait. Je pense que c'est assez clair. Pas besoin non plus d'en parler pendant 2 heures, mais l'album. Et vraiment, c'est un voyage, quoi, dans cet univers du groupe. Et je crois que c'est un voyage qui vaut encore la peine d'être fait. Donc, je le recommande avec enthousiasme. C'est un album que j'écoutais pas mal dans les années 90 et que je retrouve toujours avec plaisir quand il tombe dans ma playlist au hasard, même aujourd'hui. Donc, ça s'appelle Libération de The Divine Comedy. Pardon, Guillaume.
Juste une petite précision, parce que je suis allé me renseigner du coup. En fait, le groupe est bien encore en activité et ils sortent un album à la fin de l'année.
Ouais, et ben voilà, écoute, comme quoi. C'est, je savais que je les ai suivis du coin de l'œil, mais c'est vrai, je sais pas pourquoi je suis pas allé écouter d'autres albums. D'eux, c'est pas le genre de groupe que j'ai suivi avec une attention fervente. Mais oui, donc ils sont encore en activité. C'est pas le groupe dont vous avez forcément entendu parler. Ils sont pas méga connus, mais ils fonctionnent. Donc voilà, je recommande. T'en avais entendu parler, toi, Marion, ou pas du tout?
J'en ai entendu parler pas récemment, pour être honnête, ouais. mais j'avais entendu quelques titres par-ci par-là, mais j'ai jamais prêté l'oreille plus que ça. Mais là, j'écouterai l'album du coup.
D'accord, super. Bon bah écoute, mission accomplie alors. Eh bien justement, c'est à ton tour. De quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Alors moi, en ce qui me concerne, je vais terminer avec un film qui s'appelle Boyhood, qui a été réalisé par Richard Linklater, donc un film américain qui est sorti en 2014. Et en fait, il traite, comme son nom l'indique, de la jeunesse d'un petit garçon. Donc on va suivre Mason, qui, je crois, quand le film commence, a vers les 6 ans, et on va le suivre tout au long de sa vie, de son adolescence. Donc on va suivre aussi sa sœur Samantha, ses parents qui sont incarnés par Patricia Arquette et son père par Ethan Hawke, et qui sont séparés à un moment donné. Et donc c'est un film qui va suivre cette famille. C'est donc une chronique familiale, une comédie dramatique avec les joies, les peines, etc. Et c'est un vrai voyage au sein d'une famille. Alors vous allez me dire, alors le film commence quand Mason a 6 ans et il termine, je crois, quand Mason a 18 ans, quelque chose comme ça. Et vous allez me dire, bah oui, mais on suit pas les mêmes acteurs, c'est pas possible. Eh ben si, en fait, c'est la particularité de ce film. Il a été tourné sur 12 ans. Donc c'est assez impressionnant. On retrouve les mêmes acteurs durant 12 années et donc ils ont, je suppose, fait plusieurs périodes de tournage à des moments précis pour avoir les différentes périodes de la vie de chacun des acteurs. Et c'est assez, déboussolant. Car on voit vraiment Mason, le héros du film principal, qui passe vraiment du statut de petit garçon au jeune ado, à l'adolescent presque adulte, hein, qui est avec différentes occupations, différentes préoccupations, que ce soit sur la vie, sur ses amis, sur ses peines de cœur, sur tout ce qu'on peut apprendre de la vie lorsqu'on passe de l'enfance à l'adolescence et ensuite à l'adulte. Et c'est vraiment le fait de vieillir et de voir vieillir ces mêmes acteurs et de voir cette relation entre eux. On a vraiment l'impression qu'il y a au-delà des personnages du film, il y a une notion de fusion entre fiction et réalité du fait qu'on garde ces mêmes acteurs. Généralement, vous savez, on a l'habitude d'avoir trois acteurs différents pour incarner le même personnage à différentes périodes de sa vie. Bah là, vraiment, on rompt avec cette tradition-là et on va vraiment suivre le même acteur et les transformations physiques, les petites cicatrices laissées par la vie, les traits. C'est vraiment fascinant, cette expérience qu'a fait le réalisateur de garder ce groupe d'acteurs et de, entre guillemets, de faire un pari avec eux, parce qu'on ne sait jamais en 12 ans ce qui peut leur arriver également. Heureusement, ils sont tous là, mais voilà, on ne sait jamais. Et donc voilà, eux aussi se sont engagés sur cette longue période pour faire ce film, et c'est vraiment une chronique familiale que vous ne pourrez pas voir ailleurs, avec une vraie sensation de réalité, des émotions qui sont vraiment bien retranscrites, avec des vrais moments de lumière qui nous feront forcément écho à nos expériences personnelles et familiales. Donc, vraie belle expérience que ce film de Richard Linklater. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce réalisateur, c'est un peu un habitué des films concept, car en fait, il avait, avant de faire Boyhood, il avait déjà fait une trilogie assez impressionnante avec Ethan Hawke et Julie Delpy, qui est une actrice française. Et en fait, il avait fait Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, qui sont trois films tournés à 9 ans d'intervalle. Et donc, on retrouve les mêmes personnages à 9 ans d'intervalle dans chacun de ces films et on poursuit leur histoire. Donc là aussi, il y a une notion de rendez-vous, de familiarité avec ces personnages qu'on a envie de retrouver comme des vieux amis, de voir où ils en sont à tel moment de leur vie. Donc voilà, c'est vraiment une expérience cinématographique à tenter. C'est pour ça que ça est vraiment un film pour tous. Et je vous le conseille vraiment, vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Guillaume et Patrick.
Alors moi je l'ai pas vu. J'avais une petite question parce que moi j'aime beaucoup Patricia Arquette, donc je m'étais renseigné déjà un petit peu sur ce film parce que je suis toute la filmographie de Patricia Arquette, et j'avais déjà entendu parler du réalisateur comme quoi il faisait des films assez conceptuels, donc ça m'a toujours attiré. Donc là je vais tenter le coup. J'avais juste une question. J'ai vu qu'il durait presque 3 heures. Est-ce que ça passe bien? Il n'y a pas de longueur? On assimile tout? Ça passe vite?
Alors c'est marrant, c'est une très bonne question. Je ne me rappelle même pas qu'il durait aussi longtemps, parce que ce dont je me rappelle le plus quand je l'ai vu, c'est à la fin du film, on se sent un peu abandonné. Et bon, c'est un peu triste de dire ça, mais le fait d'avoir accompagné ces personnages sur toute une période de leur vie, on n'a pas envie de les quitter. Donc à la fin du film, on n'a pas envie que le film se termine. On a envie de rester avec eux, d'en savoir plus.
Ce qui est plutôt bon signe finalement.
Tout à fait. Moi, je me rappelle pas d'avoir eu l'impression que ça durait trop longtemps. C'est plutôt l'impression de, ok, rendez-vous dans 10 ans pour voir qu'est-ce qui se passe encore, quoi.
Ouais, ça a l'air d'être effectivement, ça a l'air de réussir à capturer les qualités d'une série presque. Est-ce que c'est ça que tu dirais? Parce que c'est vrai que sur les séries, l'avantage qu'on a sur les films, c'est que ça suit les personnages sur tellement longtemps qu'on a le temps de s'y attacher. Est-ce que c'est le même genre de choses là?
Alors, c'est plus accessible qu'une série qu'il faut suivre pendant 11 ans pour avec 11 saisons.
Non, bien sûr, mais le sentiment,
pour,
tu vois.
Pour voir l'évolution. Mais c'est ça en condensé. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus rapide parce que c'est limité sur, sur 3 heures. Donc, il y a forcément des raccourcis, des événements plus marquants, et il y a des anecdotes. Et donc, c'est ça la patte du réalisateur, c'est trouver de la magie dans ces petites anecdotes de la vie que l'on a tous eues, qui sont vraiment personnelles. Et on retrouve un petit peu ce côté-là, en effet. Et par exemple, pour la trilogie de Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, je sais que moi qui ai suivi dès le premier film, je sais que s'il y en a un nouveau qui sort, j'irai sans me poser de questions, parce que c'est un rendez-vous avec ces personnages-là. Et là, ça fait un peu le même effet avec, avec Boyhood, mais en plus condensé. Donc, à la rigueur, pour connaître et commencer avec la filmographie de ce réalisateur, Boyhood est un vrai bon compromis, car il vous fait, voilà, en 3 heures, il vous donne un aperçu du traitement de la vie de Richard Linklater, qui a un aspect vraiment vrai et très... très émotionnel et vraiment inédit.
Moi, j'ai vu l'un des trois, je sais plus lequel c'était, Before Midnight ou l'un de ceux-là, et j'avoue que j'étais pas hyper séduit parce que j'ai trouvé que c'était un réalisateur américain qui essayait de faire un film européen, c'est-à-dire que vous savez, il y a eu un moment dans les années 2000 peut-être, où les Américains se sont aperçus qu'il n'était pas forcément nécessaire que tous leurs films soient des collections d'explosions, et ils sont mis à faire des films à tendance indie, à tendance un petit peu... Et il y a eu des trucs que j'ai beaucoup aimés, et il y a eu des trucs aussi que j'ai moins aimés, parce que j'ai trouvé qu'ils se rapprochaient trop des travers de ce qu'on avait parfois en France ou en Europe, des trucs comme je sais plus, The Wrestler, et des trucs comme ça où c'était vraiment du misérabilisme qui moi me parle pas du tout. Et sans aller jusque là, j'ai trouvé que Before Sunrise ou je sais plus était un petit peu trop dans cette tendance. Sans porter de jugement de valeur sur ça, est-ce que Boyhood c'est le même genre, ou est-ce que c'est un petit peu plus dans la mouvance tu sais, Little Miss Sunshine ou ces films-là, où quand même tu respires un peu et c'est pas que de la tristesse, quoi.
Alors oui, en effet, tu fais bien de le noter. Boyhood, c'est pas que de la tristesse, hein, du tout. Il y a vraiment des vrais moments de soleil et de rire même. Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight, ils sont beaucoup plus difficiles d'accès. C'est pour ça que je disais, si vous devez commencer avec un film, Boyhood est pour le coup sera plus accessible. Les trois autres sont en plus vont encore plus loin dans le concept, car en fait le déroulement du temps est réel. C'est-à-dire que vous allez suivre les deux personnages lors d'une balade. C'est pour ça que ça s'appelle Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. C'est que c'est un moment précis dans la journée. Vous les suivez pas du tout durant une semaine ou durant un mois ou durant une année. Il n'y a pas d'évolution des personnages. L'évolution se fait sur les trois films. Donc c'est là où c'est beaucoup plus difficile à appréhender que Boyhood, où là vous avez vraiment l'histoire d'une jeunesse en elle-même. Sur 12 années, vous avez vraiment l'évolution de plusieurs personnages et de cette famille en elle-même. Et tu as raison, la trilogie flirte avec ce côté un peu cliché indé que moi j'ai un peu que j'ai apprécié, car ça pousse le concept un peu à l'extrême, mais en effet c'est beaucoup plus difficile d'accès. Donc c'est pour ça que vraiment Boyhood, allez-y, ça sera une bonne expérience.
Écoute, ça me fait plaisir que tu sois d'accord avec moi sur cette remarque, et que tu me dises pas ah mais qu'est-ce que tu racontes, non c'est très bien, c'est pas triste. Et donc j'ai l'habitude qu'on me renvoie mes critiques au visage sur ce genre de truc, donc bon, au moins là je suis pas totalement à côté de la plaque. Merci bien.
Non, c'était une bonne remarque,
merci beaucoup. Merci, donc Boyhood. Et enfin, pour terminer toute cette session de Positron, Guillaume, de quoi nous parles-tu ?
Alors, je voudrais vous parler d'une biographie qui s'appelle Inside WikiLeaks, et qui est écrite par l'Allemand Daniel Domscheitberg, qui retrace la rencontre du hacker allemand avec Julian Assange depuis 2006. Donc, cette biographie replace dans le contexte la publication des documents confidentiels qui avaient été envoyés à la plateforme WikiLeaks pendant toute cette période. On raconte avant ça également les débuts de la plateforme, en particulier la manière dont l'organisation a choisi de faire croire qu'elle comptait de nombreux membres alors qu'en fait il n'était qu'une petite poignée d'activistes. La biographie est également l'occasion de dresser la personnalité complexe de Julian Assange, qui est grosso modo incernable, entre mythomanie, pour ceux les plus critiques diront qu'il est plutôt mythomane et paranoïaque, mais dans le fond, on se rend compte que déjà sa paranoïa est largement... Enfin, c'est beaucoup plus complexe, parce qu'en réalité, on se rend compte que sa paranoïa est justifiée.
Ouais, c'est un peu genre, c'est pas parce que je suis parano qu'ils sont pas tous après moi, quoi. C'est un voilà. petit peu cet esprit.
Mais enfin, c'est non, mais c'est très ambigu parce qu'on ne sait jamais si. D'ailleurs, le Daniel Domscheitberg qui a écrit ça et qui accompagne Julian Assange montre cette ambiguïté perpétuelle. On ne sait jamais si ce que Julian Assange est en train de dire, il le pense vraiment. Il y a fait face. Lorsqu'il parle de son enfance, on ne sait jamais si c'est la réalité parce que ça paraît extrêmement flou et il adore jouer là-dessus parce qu'il veut être quelqu'un... Enfin, Julian Assange veut être quelqu'un de totalement insaisissable. Donc, ça d'ailleurs, ça crée une espèce de mythe autour du personnage et ça, il l'a... Enfin, Daniel Domscheitberg l'a très bien capturé pour faire sa biographie, et Julian Assange s'en sort très bien pour justement parvenir à faire de son personnage public quelqu'un de très ambigu et d'impossible à cerner. Parce que lui, il veut surtout qu'on s'intéresse à WikiLeaks. Il peut être décrit parfois comme quelqu'un d'un petit peu
mégalomane. Ouais.
C'est ambigu. On est jamais sûr de rien. C'est surtout ça. Il y a une espèce de flou perpétuel sur sa psychologie. Et c'est intéressant de voir ça du regard de quelqu'un qui l'a côtoyé pendant 6-7 ans, quoi. Et on se rend compte qu'au bout de 6-7 ans, il le cerne pas mieux qu'au début. Donc,
c'est pas un peu frustrant du coup pour la biographie, si on réussit pas.
C'est le point de vue du premier porte-parole de WikiLeaks, donc on a quand même des faits concrets par rapport à WikiLeaks. On a tout ce qu'ils, on a également leur voyage entre l'Allemagne, la Belgique et l'Islande, qui est décrit avec beaucoup de détails. On a également les rapports houleux avec le Guardian, le New York Times, Der Spiegel, qui ne respectent pas toujours leurs engagements. D'où un sentiment de paranoïa justifié de la part de Assange de temps en temps. Et puis, on arrive rapidement au cœur du problème, qui est la protection des sources et le processus de soumission des documents à la plateforme. Et c'est le désaccord central qui va fâcher Domscheitberg et Assange, puisque Assange souhaite toujours tout publier, sans caviarder les données relatives aux sources, tandis que Domscheitberg, lui, voudrait au contraire repousser au maximum la publication des câbles diplomatiques, par exemple, lorsque c'était vers 2013, il me semble, afin de les trier et de respecter l'anonymat des sources. Donc, voilà, c'est ce qui va les fâcher, et Julian Assange va jusqu'à parler de trahison de la part de Domscheitberg, parce que Domscheitberg, quand il va voir la proportion que ça va prendre sur la fin, il va voler une partie de la base de données en disant, grosso modo, c'est dangereux de laisser un jouet, enfin, c'est dangereux de laisser un tel jouet à un enfant comme Julian Assange. Mmh. Et du coup, il a préféré récupérer une partie des câbles diplomatiques pour ensuite ne pas les exploiter et s'assurer que Julian Assange ne pourrait pas les exploiter. Mais au total, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, parce que Julian Assange, on se rend compte que il a une idéologie, il est complexe, mais en même temps, on a envie de le suivre, on a envie de l'encourager, on a envie de lui dire, mais va plus loin, et c'est assez peu frustrant, parce qu'au final, il y a quand même de la réussite, il y a du succès, et il y a de la revanche également. Donc voilà, la partie qui peut être effectivement un petit peu frustrante, c'est sur la psychologie du personnage. Mais en fait, j'ai eu un dilemme au moment de choisir, parce que je me demandais si j'allais parler de la biographie ou si j'allais parler du film qui en a été fait. Le film qui a été adapté du livre, en fait, s'appelle The Fifth Estate. Et c'est un film adapté du livre que j'ai retrouvé vraiment sans problème tout ce que contient le livre. Il a été fait avec beaucoup de fidélité, mais j'ai décidé de le mettre un petit peu au second plan parce qu'en fait, il a fait un énorme flop. Et il n'a, bah voilà, il n'a pas eu de succès du tout. Et en plus, c'est un des pires, question rentabilité, c'est un des pires films de l'histoire des États-Unis. Pourtant, le casting n'était pas mauvais. On a Benedict Cumberbatch qu'on connaît dans Sherlock ou dans Imitation Game. Et puis on a Daniel Brühl qui est un acteur allemand assez connu qui a joué dans Goodbye Lenin ou plus récemment dans le dernier Captain America pour jouer les deux rôles principaux. Et ça marche vachement bien pour moi, ça marche vachement bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de critiques sur ce film.
Au final.
Au final, je recommande les deux. Alors, le livre est réussi, il a eu beaucoup d'éloges. Le film a été lourdement critiqué. Donc, c'est pour ça que je recommanderais d'abord le bouquin et le film pour ceux qui ont adoré le bouquin, parce qu'ils retrouveront le bouquin. D'accord. En revanche, si vous commencez immédiatement par le livre... si vous commencez immédiatement par le film, il y a des chances que vous trouviez ça un peu fade. Voilà.
D'accord. Ok. Donc le livre s'appelle Inside WikiLeaks et donc c'est plutôt le livre que tu recommences à tout le monde du coup.
Voilà.
Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Guillaume et merci à tous les deux pour ce dernier épisode de la session de Positron. Oh, c'est déjà la fin. Mon Dieu. Bon, bah écoutez, on va quand même se quitter bons amis parce que c'était une excellente session, contrairement à celles qui ont précédé. Et donc, je vais tout de même vous demander de nous dire où on peut vous retrouver si les auditeurs en veulent plus, toujours plus, ils ne sont jamais satisfaits. Dites-nous, à commencer par Guillaume, tiens.
On me retrouve sur Statosphère, sur Twitter.
Magnifique. Donc, @Statosphère sur Twitter. Et Marion ?
Vous pouvez me retrouver sur Twitter au pseudo Aizea Design, sur Nerdtech TV, la chaîne YouTube, ou sur mon blog de musique wildsession.fr.
Magnifique. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Le site, c'est frenchspin.fr, bien sûr. Je précise tout de même que je vais sans doute faire une petite pause estivale sur Positron. Donc, on sera de retour fin août, début septembre, quelque chose comme ça. Donc, quelques semaines sans Positron, mon Dieu, c'est pas grave. Il y en a plein de précédents à réécouter. Donc, vous avez de quoi faire tout de même. Je suis sûr qu'il y en aura que vous avez oublié, que vous pouvez récupérer. Et on se retrouve donc à la rentrée. Tout ira bien à ce moment, on sera de retour. Merci beaucoup, encore une fois, Marion et Guillaume, d'avoir participé à cette session, de cette levée tôt pour être avec nous. Et puis,
merci pour l'invitation.
Mais ça m'a fait plaisir. Merci à tous les deux. Et puis, on se retrouve au prochain épisode. Ciao à tous.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.